REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Bonjour à tous et à toutes. Merci les amis d'avoir répondu de présent ce matin sur l'ensemble de nos radios, Territoria et IMO. Et bien sûr, surtout vos commentaires. Nous étions avec Emmanuel Vargon tout à l'heure qui nous a fait le plaisir de répondre à nos questions, même si parfois c'est des questions un peu tendues et une rentrée qui s'annonce quand même un peu sportive. Alors moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau, c'est la première fois qu'elle vient dans notre groupe, sur nos radios, sur Territoria et IMO, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes essayiste, directrice de l'IFRAP. C'est un think tank qu'on qualifie d'ultra-libéral. Ça vous va quand on dit les choses comme ça ou pas ?
Écoutez, on est pour les réformes. Mais en France, c'est compliqué de défendre l'idée d'une bonne gestion publique, de rendre des comptes aux citoyens, de donner des informations au Parlement. J'étais tout à l'heure dans mon intervention sur les questions, évidemment, de l'État et... j'ai expliqué qu'on a des gros problèmes pour savoir qui détient la dette française, par exemple, à l'étranger, pour chiffrer la dette hors bilan de la France. Oui, c'est vrai que ça dérange parfois certains, mais je crois que c'est un travail de salut public, de dire ce qui se passe, chiffrer, donner les chiffres. Vous savez, on a beaucoup de critiques, mais personne n'a jamais trouvé à redire sur nos chiffres. Donc,
Est-ce que vous savez, Agnès, qu'on vous qualifie d'icône libérale ?
Écoutez, on me qualifie de beaucoup de choses et en réalité, ça m'est un peu égal. Parce que
là où vous allez pour provoquer le débat, on a capté un petit peu votre intervention. Alors moi, je vous le dis, j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi ? Parce que vous créez la contradiction. Vous créez la contradiction. Je pense que la vitalité, et vous serez d'accord avec moi, je pense, d'une démocratie, c'est la capacité à débattre. On est d'accord là-dessus ?
Absolument.
À un moment donné, vous êtes monté dans les tours en disant, à un moment donné, mais qui va payer ? Quand vous entendez Bruno Le Maire, hier, sur notre antenne aussi, qui lui dit « Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Fini l'arrosage. Maintenant, bienvenue au ciblage. »
Ouais, bah, le ciblage, on aurait dû le faire dès le début.
Eh oui.
Pourquoi est-ce qu'on fait le quoi qu'il en coûte sans regarder ? Alors, au début, en fait, on n'a pas regardé. On a ouvert les vannes et puis...
Mais que fallait-il faire, Agnès ?
Eh bien, il fallait faire comme l'ont fait beaucoup de pays du nord de l'Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre bulle. Est-ce qu'on peut regarder à un moment ce qu'ont fait les Pays-Bas, ce qu'ont fait les Allemands ? Vous croyez vraiment qu'on a arrêté toutes les chaînes de prod en Allemagne, dans tous les secteurs de l'industrie ? Ben non. Nous, on a regardé ça jour après jour. Mars-avril 2020.
Et ce n'est pas ce qu'il fallait faire ?
Chez nous, on a tout arrêté. Même, par exemple, dans la cosmétique, il y avait encore des commandes.
Oui, c'est vrai.
Et alors, qu'est-ce qui se passait ? Les syndicats disaient qu'il faut tout arrêter parce que ce n'est pas essentiel. Les préfets disaient qu'il faut tout arrêter. Mais en Allemagne, les mêmes produits, ils continuaient à être produits sur les chaînes de prod allemandes. Donc les mêmes boîtes qui étaient implantées en France et en Allemagne, elles tournaient à 20% en France, elles tournaient à 100% en Allemagne. Vous trouvez ça normal ?
Donc vous pensez donc ?
Nous, on se tape presque 8% de récession. Les Allemands se tapent 5% de récession. Vous voyez, ça fait 3 points de croissance qu'on a perdu en 2020,
donc
potentiellement.
Donc pour vous, c'est une mauvaise gestion de la crise sanitaire qui a frappé tout le monde de façon inopinée.
Mais écoutez,
et stupéfiante.
En fait, le gouvernement s'en est rendu compte. Les confinements d'après, ils n'étaient pas du tout identiques. On n'arrêtait pas les chaînes de prod. Arrêtez-moi si je me trompe.
Non, mais on est d'accord.
Novembre 2020, avril 2021, on a continué à faire bosser les gens. On est allé vraiment...
C'est ce qu'il aurait fallu faire dès le début, au lieu d'aller sur un confinement
drastique. On aurait sauvé 3 points de croissance. C'est énorme.
Mais
c'est gigantesque.
Mais quand on oppose, justement, parlons-en, quand on oppose ces points de croissance que vous dites, et vous avez raison sur le principe... Mais par rapport à l'urgence sanitaire, est-ce qu'il n'y a pas un degré de priorité qu'on vous oppose ? Alors je sais que c'est peut-être...
Écoutez, les mêmes boîtes dont je vous parle,
ouais.
Ils avaient des masques FFP2 et ils les passaient aux hôpitaux au même moment. Ils pouvaient faire tourner leur chaîne de prod, ils avaient tout. Ils avaient les masques, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire tourner dans un contexte sanitaire qui était hyper encadré.
Alors, contexte...
Donc ça devenait idéologique. Pourquoi est-ce qu'on a le plus arrêté la Poste ? Je l'explique dans mon livre.
Alors pourquoi ?
Bah, tout simplement parce que les agents de la Poste ne pouvaient pas avoir de garde d'enfants que leurs enfants étaient à la maison. Et donc, on a dit, on a oublié les agents de la Poste, on va fermer quasiment toutes les agences postales de ce pays. J'exagère un peu parce que certaines sont restées ouvertes.
Bien sûr, bien sûr.
Mais par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, c'était incroyable de voir... si vous dites aux Français, on arrête la Poste, c'est un symbole. Tout s'arrête. Et ça, je l'ai écrit dans mon livre, ça n'a pas plu à tout le monde à la Poste.
Ah, c'est clair.
Mais néanmoins... Quand je regarde ce qui s'est passé en Allemagne, en Espagne, les services postaux n'ont pas du tout été autant arrêtés que chez nous. Les administrations publiques ont été hyper arrêtées pendant des semaines. La justice n'a pas fonctionné.
Absolument.
Alors que dans plein de pays européens, la justice a continué à fonctionner. Donc, si vous voulez, je crois qu'on est allé très, 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 très loin dans un coût qui n'est pas encore évalué. Parce que, par exemple, on a une évaluation du chômage partiel pour les entreprises. Mais est-ce que vous avez un chiffre sur le coût des autorisations spéciales d'absence pour les agents publics qui ont été payés à 100%?
On a beaucoup de mal à l'obtenir.
Mais c'est pas qu'on a beaucoup de mal, c'est que c'est impossible. J'ai demandé à la ministre Amélie de Montchalin de me faire un retour sur le coût. Elle m'a dit « je ne réponds qu'à la représentation nationale ».
Oui, c'est pas spécialement une amie à vous, hein, Amélie Montchalin. Quand on voit ce qu'elle écrit ou ce qu'elle a dit de vous avec.
Non, mais si c'était vrai, si on avait une réponse devant la représentation nationale et qu'on nous avait dit combien ça a coûté d'arrêter toutes ces administrations et de payer à 100% les agents chez eux, moi je serais contente qu'elle veuille pas me répondre à moi qui suis juste quelqu'un de la société civile. Qu'on ne réponde pas aux parlementaires, qu'on ne donne pas d'informations aux sénateurs, aux députés là-dessus, pas normal.
Pourquoi on ne donne pas cette information, Agnès?
Je pense qu'ils ne la connaissent pas, ou ils ne l'ont pas évaluée, ou j'en sais rien, ça ne les intéresse pas. Ou alors ça montrerait qu'on a dépensé beaucoup plus que les autres pays.
Vous avez des indicateurs qui vous permettent d'évaluer ce que ça va coûter, ce que ça a coûté?
C'est très difficile. Comment je le fais, administration par administration, avec le pourcentage d'agents? J'ai beaucoup échangé à l'époque avec Olivier Dussopt quand il était ministre de la fonction publique. En 2020, c'était lui qui s'occupait de ce portefeuille. Et je sais qu'il y avait énormément d'agents de l'État, mais aussi des collectivités locales. Ça pouvait monter à des pourcentages gigantesques. Donc peut-être 20, 30%, 40% dans certaines administrations, pendant des semaines et des semaines. Il y a encore des administrations qui ont du mal à faire revenir les agents. Si vous voulez, quand on fait des comparaisons internationales où en Allemagne ou au Royaume-Uni, on compte le chômage partiel qui a été payé pour les agents publics, mais qu'en France, on ne le compte pas, vous voyez, déjà, ça fait des problèmes de comparaison internationale.
Alors, Bruno Le Maire disait la chose suivante au micro, d'ailleurs. Il disait, voilà, on va s'attacher à essayer de travailler sur des réformes, notamment la réforme des retraites. La réforme de l'assurance chômage. Ce sont des éléments sur lesquels, alors je reprends d'ailleurs depuis votre prix Renaissance en 2014, mais le livre que vous avez écrit On va dans le mur en 2015, vous avez déjà identifié des points précis. Quand vous l'entendez, Bruno Le Maire, dire ce genre de choses, à votre avis, c'est un discours politique? Ou est-ce qu'il est réellement sérieux? Alors, parce que ça fait un moment où vous en parlez, de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et même du système de santé. Vous êtes même allé jusqu'à dire qu'il faudrait qu'on ait un système de santé qui ressemble un peu à l'Allemagne. C'est bien ça, on est bien d'accord?
Je pense que Bruno Le Maire croit vraiment qu'il faut réformer les retraites. Il l'a toujours dit. Il l'a dit aussi quand il était candidat de la primaire de la droite.
Absolument.
On avait beaucoup travaillé d'ailleurs sur les programmes à l'époque et on a fait beaucoup de comparaisons entre les différents candidats. Enfin bref. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on ne fait qu'en parler. On n'a pas de calendrier. Moi, je demande un calendrier. Voilà. Un calendrier. En quelle année on passe à 64 ans? En quelle année on passe à 65 ans? Comment ça se fait, tout ça? Voilà, qu'on ait un consensus sur le sujet, qu'on parle vraiment de la décentralisation avec une vraie réforme, pas un ersatz de réforme comme on a à l'heure actuelle, avec la région qui gère vraiment l'ensemble d'une mission publique d'un bout à l'autre, parce que nous, on est spécialistes du tronçonnage des financements. Alors, l'État paye un petit peu, la région paye un petit peu, le département paye un petit peu, l'interco paye un petit peu, la commune paye un petit peu. Résultat, tout le monde s'occupe de tout. Ça nous coûte 84 milliards de coûts supplémentaires de production de nos services publics pour une qualité qui n'est pas meilleure, voire qui est pire. Donc, on fait des vraies régions, des grosses régions, avec des vrais budgets, parce qu'aujourd'hui, les budgets des régions...
C'était l'idée, avec François Hollande, justement, de la division des régions avec les 13 régions aujourd'hui, quand
oui,
même.
Oui, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. On a 29 milliards de budget total pour nos régions, et les Allemands, ils sont à plus de 330 milliards de budget pour les régions. Alors évidemment, ils sont plus nombreux, mais vous voyez bien qu'il faudrait qu'on ait 10 fois plus... De budget géré au niveau de la région,
et
au niveau local.
Et un modèle du type Landers comme les Allemands, par exemple, ça serait réaliste en France, par exemple?
À quoi ça sert d'avoir créé des grosses régions si c'est pour qu'elles gèrent rien du tout?
Oui,
ou quasiment rien. D'accord. Après, on se dit, tiens, c'est bizarre, les Français ne sont pas allés voter au régional. Et personne ici est capable de dire ce que gère vraiment la région. Donc, il y a un moment où il faut donner du sens. Si vous savez que toute la politique d'éducation est gérée par la région, oui, ça vous intéresse de savoir qui s'en occupe. Si vous savez que toute la politique de santé est gérée par la région, ça vous intéresse. si vous savez que la gestion de votre...
Mais bien sûr.
Voilà. Donc, alors, tous ces sujets-là, ils ont été vraiment pris en main depuis de nombreuses années par les pays du nord de l'Europe, les pays qu'on dit frugaux. Ils ont fait la baisse de la dépense, ils ont réduit le poids des impôts, ils ont créé de la compétitivité pour les boîtes, ils ont un niveau de chômage.
Alors, quand parce vous dites
que
nord de
là, on est super content parce qu'on a 8% de chômage. Non mais, c'est normal ça, avec encore plus d'un million de personnes en chômage partiel.
Oui, parce que vous reprenez la phrase de Bruno Le Maire qui disait nous sommes revenus au chômage de 2019, c'est ça hein, l'idée.
Non donc, mais,
qui était déjà.
Non mais attendez, regardez les taux de chômage des pays du nord de l'Europe, regardez comment ils ont fait pour gérer leur pays. Il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en France. Pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est pas les citoyens français qui bloquent.
Alors justement, question Agnès. On est d'accord que bon, il y a une crise sanitaire bien mal gérée, ok. Bis repetita avec des multiples confinements. Est-ce que
enfin aucun pays autour de nous n'arrive à plus de 62% de dépenses publiques par rapport au PIB, hein. D'accord. Nous, avec la crise, on arrive à être à ce niveau-là.
Ah ouais. Donc pour vous, la France est champion de toute catégorie de la dépense publique.
Ah bah on est champion du monde.
D'accord. Hein,
bah, faut se dire que voilà, c'est clair. Hein. Donc, si la question, c'est qu'on est parti sur du quoi qu'il en coûte, alors qu'on était déjà les plus coûteux.
Oui, d'accord. Mais en même temps, les décisions, il fallait qu'elles soient prises. Est-ce que, finalement, si la solution n'était pas différente, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces entreprises qu'on aurait mis dans quel slade? Personne ne savait ce qui allait se passer sur le plan sanitaire.
Vous savez, les Espagnols ont dit des choses. Alors, ils ont dit, nous, on a un problème sanitaire, mais on n'a pas d'argent. Nous, on a dit, on a un problème sanitaire... Mais on va tout emprunter, alors qu'on n'a pas plus d'argent en réalité. Donc il faut aussi dire la réalité, c'est que tout l'argent qu'on a déployé, on l'a emprunté. Alors certes, la BCE nous a prêté. Mm-hmm. Et en fait, la BCE rachète des dettes de la France pour à peu près 200 milliards d'euros par an. Mm-hmm. Mais nous, on emprunte 400.
Justement, vous parliez tout à l'heure, mais je vais revenir sur la question de la dette. Agnès, est-ce que ce confinement a mis en relief la fragilité de nos institutions, et je vais même aller plus loin, de notre modèle de gouvernance?
Bien sûr. Bien sûr, mais il y a un problème énorme de contre-pouvoir. Où est le Parlement dans ce pays? Comment est-ce qu'on peut accepter d'avoir zéro contrôle de l'utilisation des deniers publics? C'est pas l'argent de l'État, c'est pas l'argent de la Sécu, c'est pas l'argent des collectivités, c'est notre argent, surtout celui des entreprises d'ailleurs, parce que ce sont les entreprises qui créent la valeur ajoutée dans le PIB de la France.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Nos parlementaires ne font pas le travail de l'article 24 de la Constitution, qui est celui d'évaluer les politiques publiques, évaluer finalement ce qu'on fait
encore
avec
faut-il,
l'argent public.
Encore faut-il, Agnès Molinier, qu'ils aient le périmètre de pouvoir le faire. Donc, dans la répartition des pouvoirs.
Les pouvoirs, ils peuvent le faire. Sauf qu'en réalité, ce sont les agents des ministères qui font eux-mêmes les rapports qui sont ensuite publiés par les parlementaires. Oui. Il y a très, très peu d'ajouts vraiment par le parlementaire lui-même. Il y a très peu de contrôle sur pièce et sur place. Il y a finalement l'audit.
C'est lié à quoi? Alors, c'est lié à quoi, ça? À l'incompétence? Le manque de recours?
Nos parlementaires sont très faibles par rapport à l'administration centrale, notamment de Bercy.
Okay.
Et que si on voulait vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire, il faudrait doter d'un organe d'audit indépendant notre Parlement, comme on l'avait proposé déjà depuis presque 15 ans, 20 ans, ça avait été voté par les Français, puisque c'était dans le programme de 2007 de Nicolas Sarkozy.
Absolument.
Et ça a été rayé d'un trait de plume, parce qu'on a dit on ne va pas faire un doublon avec la Cour des comptes.
Absolument.
Sauf que la Cour des comptes, Pierre Moscovici est intervenu tout à l'heure, la Cour des comptes, elle est là, certes, pour faire un contrôle de la légalité, un petit peu de l'opportunité, mais ça devient très politique. D'ailleurs, il l'a dit à un moment, là, ça devient un peu politique. Donc, en réalité, ce contrôle de la dépense et la décision de est-ce qu'il y a une opportunité véritable à dépenser cet argent ou pas, c'est au Parlement que ça se joue. Ce sont les parlementaires qui sont élus pour le faire. Les magistrats de la Cour, ils sont pas élus pour le faire. Mais ce n'est pas leur rôle constitutionnel.
Ils sont même nommés, élus pour le contrôler. Mais vous l'aviez écrit, hein, de façon sous-jacente. Vous avez écrit un essai en 2011, « Fonctionnaire contre l'État ». En fait, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a un appareil, une espèce d'inertie, vous savez, au-delà du politique, qui finalement empêche la machine de tourner. Une espèce de théorie de Parkinson où on a un système qui fonctionne par lui-même et qui ne s'intéresse surtout pas au fait qu'on le réforme d'une manière ou d'une autre. Alors s'il devait y avoir une réforme, Agnès Molinier, ça serait quoi?
Ce qui est important de comprendre, c'est que bien gérer l'État, bien gérer les collectivités locales, bien gérer la sécurité sociale, c'est pas contre ceux qui travaillent à l'intérieur de ces organisations, c'est pour aussi ces personnes. Parce que le jour où on va se retrouver avec des taux d'emprunt pour la France qui ne seront pas à 0, je ne sais pas combien, ou quasiment négatif.
Ou quasiment les taux d'intérêt négatifs, bien sûr.
Mais à 4%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence France Trésor. Là, la charge de la dette, elle ne sera pas à 36 milliards, elle sera à 80 milliards, elle sera à plus. On ne pourra plus financer. Et les premiers qui vont être dans une difficulté, c'est ceux qu'on ne pourra plus payer. Ce sont nos agents publics, ceux qui travaillent dans les organisations publiques. Donc, je pense que tous ceux qui travaillent à l'intérieur de l'État et à l'intérieur de l'ensemble des organismes de la puissance publique ont intérêt à la bonne gestion publique. D'ailleurs, il y en a plein qui collaborent à nos travaux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'à moyen long terme, les réformes, il faut les mener. Sinon, on aura un risque d'effondrement du système. Parce que vous avez de plus en plus d'impôts qui pèsent sur les entreprises, de moins en moins de compétitivité, de moins en moins de valeur ajoutée qui est créée. Vous avez un pays qui recule de plus en plus dans les classements du PIB par habitant. Donc résultat, vous avez un modèle social qui est hyper cher, qui est financé par une incapacité à créer plus de valeur ajoutée avec une croissance qui n'est pas au rendez-vous. Alors là, on est à 6%.
Et un budget endémiquement déficitaire depuis 1980.
Donc notre intérêt à tous, c'est qu'il y ait des entreprises prospères, qui créent beaucoup de valeur ajoutée, qui créent beaucoup d'emplois. Pourquoi ? Pour qu'on puisse redistribuer. Sauf que maintenant, on pense d'abord à redistribuer et ensuite on se dit « Ah zut, fallait peut-être créer de la valeur ajoutée ». Alors là, le problème, c'est qu'on raisonne à l'envers.
Oui, je comprends.
Les Allemands, chaque fois qu'ils votent une loi, ils se disent « Attends, est-ce que ça crée des emplois ou est-ce que ça détruit des emplois ?» Nous, chez nous, on a eu la loi climat, là, il n'y a pas longtemps.
Climat résilience, adoptée, ouais. Publiée il y a deux jours.
Bon, cette loi, moi, j'ai lu l'étude d'impact. Ils disent « Ça va détruire des emplois, ça va en créer. » À aucun moment, ils disent « Combien ça va en créer, combien ça va en détruire ?» Ou voilà. Nous, on veut que ce soit chiffré. Si la loi, si la Constitution maintenant exige qu'il y ait des études d'impact,
très juste.
C'est pas pour qu'on nous dise c'est formidable, il y aura moins d'émissions de gaz, etc. C'est pour qu'on nous dise aussi qu'est-ce que ça donne sur l'économie. Quand le gouvernement adopte la loi du pass sanitaire cet été, moi je lis les 74 pages de l'étude d'impact et je vois rien sur qu'est-ce que ça va impacter sur les entreprises qui sont concernées. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal.
Alors, question.
Donc, on doit dire quelle va être la perte de chiffre d'affaires, comment ce sera financé. Là, vous voyez, Bruno Le Maire a dit la fin du quoi qu'il en coûte.
Ah,
mais je ne sais toujours pas, et vous non plus.
En parlant de ciblage, fini l'arrosage, bien mieux le ciblage.
Ouais. Mais, d'accord, c'est très bien. Il faut faire la fin du quoi qu'il en coûte. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 26 août. Non. Il n'y a pas eu de véritable chiffrage de combien allait coûter finalement la prise en charge de la baisse d'activité liée au pass sanitaire cet été. C'est anormal.
Non,
alors que les sénateurs l'ont demandé et qu'à un moment, on ne peut pas voter des textes sans savoir combien ça va coûter à l'ensemble de la collectivité. Parce que je trouve qu'on est de plus en plus dans des études d'impact qui sont bâclées, qui sont pas documentées, qui budgétairement ne tiennent pas la route. Et puis alors d'ailleurs, s'il y avait une étude d'impact documentée, ça nous aurait emmené à une loi de finances rectificative pour 2021. Pourquoi ? Parce qu'on aurait dit y a X milliards en plus
bien
à
sûr.
Financer, et donc il faut revoter des éléments budgétaires pour 2021. Quand Pierre Moscovici a dit qu'il fallait une loi de programmation des finances publiques, ça fait combien de temps qu'on attend d'avoir des lois de programmation des finances publiques qui tiennent la route depuis le début de ce quinquennat ? Tout est encore calculé par rapport à une loi de programmation de 2018. Donc,
dernière question, voilà. Agnès Verdier-Mélinet, sur effectivement, on a bien compris votre point de vue et qui est tout à fait compatible avec ce que vous avez publié. Fragilité institutionnelle, un retour finalement, on dit un retour à la croissance, mais encore une fois, faut corriger. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt ? Qu'est-ce qui va se passer quand l'État va commencer à débrancher progressivement effectivement les aides pour mieux les cibler ? Est-ce que derrière cette transformation nécessaire sur le plan des institutions, qu'est-ce qu'elle peut amener ? Qu'est-ce qu'elle pourrait amener ? Je vous dis ça à l'aune d'une campagne présidentielle qui s'annonce quand même plutôt sportive et on peut dire même assez incertaine en tant que telle. Quelle analyse vous portez sur cette rentrée ou là actuellement ?
Moi, je crains qu'à force de dire le quoi qu'il en coûte, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur la dette, sur les milliards à dépenser, etc. Je crains que ce soit un boulevard pour les dépensiers. Voilà, pour 2022, je vous le dis clairement. Parce que finalement, on finit toujours par créer, des opportunités à ceux dont on adopte les idées. Qu'est-ce qui s'est passé quand Nicolas Sarkozy a augmenté la taxation sur les revenus du capital? Ben, François Hollande est arrivé en disant « moi, je veux mettre la taxation du capital au niveau du travail ». Et c'était logique, puisque ça avait déjà été commencé. Qu'est-ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir après François Hollande? C'était après le CICE, le pacte de responsabilité, c'était la compétitivité des entreprises, etc. Et c'était logique. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit « il n'y a aucun problème, on dépense tout ce qu'on veut ». Bon. Il y a un gros risque pour qu'en 2022, on continue sur ce discours-là. Donc, moi, j'appelle...
Pour des raisons électorales, pour des raisons de conquête du pouvoir, on ira sur ce schéma-là encore.
Je ne dis pas que je le souhaite. Je dis qu'on s'est mis dans une posture qui est risquée. Voilà. Le risque du discours de la facilité...
Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Français?
Moi, j'aimerais que le gouvernement d'ores et déjà dise c'est maintenant qu'il faut faire la réforme des retraites, c'est maintenant qu'il faut décentraliser vraiment, c'est maintenant qu'il faut réduire les coûts de production de services publics, c'est maintenant qu'il faut réduire
les risques sociaux.
On n'a jamais vu la masse salariale publique,
la non-acceptation du public.
On n'a quasiment jamais vu la masse salariale publique augmenter autant. Vous voyez? On n'a jamais vu quasiment, depuis les dernières années, augmenter autant la dépense, non pas la dépense de relance ou la dépense exceptionnelle, mais la dépense pérenne. On est à 30 milliards d'euros par an, là, en moyenne, d'augmentation.
Mais Agnès, on le comprend très bien, mais comment, quand vous êtes politique, vous le faites passer dans le public? Un homme politique ne peut pas aller contre une opinion. C'est pas possible.
Que le gouvernement actuel nous dise quel est son plan de désendettement. Parce qu'on va avoir besoin du plan de désendettement. Il ne faut pas attendre 2022 pour le sortir.
Et c'est politiquement tenable de tenir ce discours vis-à-vis des citoyens qui ont envie d'écouter autre chose.
Vous avez entendu Pierre Moscovici tout à l'heure?
Oui, bien sûr.
Bon. Vous avez compris aussi que la ministre nous a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. S'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, ça veut dire qu'il y a des baisses de dépenses. S'il n'y a pas de baisses de dépenses, ça veut dire qu'il y a des augmentations d'impôts. Donc, il faut être clair avec les Français. Voilà. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui a été donné aux entreprises n'est pas gratuit. Voilà. À un moment, il faudra payer la note.
C'est clair.
Il faut clairement
compter ceux qui seront incapables de payer le PGE en mars 2022.
Et ça, c'est une autre histoire, parce que vous savez qu'il y a une évaluation qui dit qu'il y a à peu près 9% sur l'ensemble qui ne pourra pas être remboursé. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des détails.
Absolument.
En fonction de la taille des entreprises.
Exactement.
Combien pour les TPE? Combien pour les PME? Combien pour les ETI? Combien pour les grandes entreprises? Parce que ce n'est pas du tout pareil. Si les TPE ne peuvent pas rembourser qu'il y en a 15% ou je ne sais pas, j'en sais rien, je ne connais pas les extrapolations. On n'a pas eu une granularité dans l'information assez importante à mon goût. Parce que c'est très important. Peut-être qu'en milliards, ça va représenter que 9%. Mais peut-être que sur certaines strates d'entreprise, ce sera très important. Donc attention, moi je vois aussi un tissu entrepreneurial qui souffre, des petites entreprises qui souffrent. Ce matin, on me dit c'est formidable, 6% de croissance. Oui, c'est formidable, mais l'année dernière, c'était moins 8. Donc ne soyons pas non plus dans un optimisme béat sur un petit nuage en essayant d'occulter la réalité.
C'est bien le sens de ce que je vous disais.
Prenons les bonnes dispositions pour qu'on ne soit pas finalement, dans une situation où il faudra intervenir en urgence. Parce que ça, c'est le pire.
Agnès, est-ce que les Français sont prêts à l'écouter?
Les Français sont des gens très intelligents. Et si on leur dit les choses véritablement avec de la pédagogie, qu'on leur explique et qu'on leur pose des questions. Par exemple, moi, je suis pour certains référendums à l'initiative.
Référendum.
Oui, à l'initiative du gouvernement. Et qu'on dise, voilà, soit vous préférez qu'on recule l'âge de départ à la retraite, soit vous assumez qu'on baissera les retraites. Parce que c'est ça, l'équation. Voilà. Dire la vérité.
Ah oui, c'est explosé, ça. Non, mais
il faut dire la vérité.
Est-ce qu'il y a un homme politique qui tient ce discours aujourd'hui?
Vous avez vu dernièrement qu'on désindexe en permanence les retraites?
Ah oui.
Vous avez vu l'augmentation de la CSG pour les retraités, etc., etc. Vous avez vu le film comme moi. Voilà. Il n'y a pas d'argent magique, l'argent ne tombe pas du ciel, tout ça.
Bon. C'est clair.
Sur les retraites, il faut poser la question comme ça. Sur le statut de la fonction publique, il faut poser la question, est-ce qu'on continue à embaucher des personnels à vie dans nos administrations ou pas? Voilà, les Suisses ont répondu à ce genre de votation.
Bien sûr.
Ils ont dit à 67% qu'ils voulaient que tout le monde soit embauché sous le même contrat, public ou privé.
Oui, mais ce n'est pas la même configuration non plus de gouvernance. Hein. La Confédération helvétique
regardez le Danemark,
c'est ce que nous disait
regardez
le maire de
l'Allemagne
Lausanne hier,
regardez tous ces pays.
Absolument.
Tous ces pays sont passés par de la contractualisation. Tous ces pays sont en train de faire gérer beaucoup de services publics par des entreprises privées.
Donc c'est la fin de l'emploi à vie et de la sécurité de l'emploi.
Il y a eu des avancées avec la loi du Sopt.
Disons-le.
La loi du Sopt a fait des avancées. Maintenant, on peut embaucher plus de contractuels, même dans des postes de direction d'administration, etc., etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et l'avenir du public, c'est le privé.
Mais ça ne passera pas sans une transformation.
Vous savez, les hôpitaux allemands, on a dit à quel point les hôpitaux allemands étaient bien gérés, à quel point il y avait des lits de réa, etc., etc. Ils sont beaucoup gérés par des chaînes privées, par des gestionnaires privés, avec des contrats, tout ça, c'est bien carré, etc. Mais voilà, délégation de services publics.
Le salut irait dans ce sens, quoi.
Le salut,
que l'État se désengage de fonctions essentielles.
Donc
même pour l'énergie, alors du coup.
C'est de ne plus être dogmatique, voilà.
D'accord.
Et de gérer correctement chaque euro d'argent public comme si c'était sa propre gestion. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on a des marges de manœuvre énormes. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut pas grand chose pour donner les bonnes informations au marché, c'est-à-dire on va faire le boulot, parce que ça, on en aura besoin.
Ouais.
Il faut qu'on leur dise on va faire le boulot. Parce que sinon, ils vont arrêter de nous prêter et ça serait un petit peu compliqué. Dire ça aussi à nos partenaires européens qui en ont un petit peu marre qu'on soit les passagers clandestins et qu'on ne fasse pas les réformes. Hein. Vous savez qu'ils nous ont demandé 175 engagements de réformes contre les 39 milliards de financement dans les 750 milliards de plans européens.
Soyons clairs, très difficilement tenable, pour le dire. Si, je vois pas comment ça va pouvoir se faire.
Il n'y a aucune raison que la France ne soit pas réformable. Ceux qui disent ça,
ça fait 40 ans qu'on en parle. Dernier budget en équilibre, 1981, je crois, ou 79, 81, c'était
ça. Ça remonte à 74.
Vous vous rendez compte? Vous rendez compte? Bon, donc c'est endémique. Alors on pourrait en parler pendant des heures, mais on a déjà largement passé le temps de parole. Mais c'est toujours passionnant. Je suis ravi de vous avoir eu sur le plateau. Je pense qu'on a des débats qui s'annoncent. Vous avez promis de venir dans nos studios parisiens, justement,
on va travailler sur 2022.
Sur cette idée.
Pour faire des bonnes propositions, pour que la France soit mieux gérée, quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir, et qu'on ne parte pas aussi dans les débats, dans le cadre de la présidentielle, sur de faux postulats. Parce qu'en 2017, par exemple, on a dit qu'il n'y a pas besoin de repousser l'âge de départ à la retraite, tout va être équilibré, finalement, il n'y a plus de problèmes financiers. Mais bizarrement, 2 mois plus tard, les mêmes faisaient un rapport pour dire le contraire. Donc des rapports publics qui donnent les mauvais postulats, qui donnent les mauvaises analyses, qui font les mauvais diagnostics, ça ne peut pas être fondateur de réflexion pour l'avenir de la France.
C'est clair.
Il y a une année charnière, c'est 2023. Cette année 2023, elle est potentiellement extrêmement dangereuse pour la France.
C'est ce que disent tous les analystes, absolument.
Voilà. 2023, si on n'est pas capable avant d'avoir sorti notre plan de désendettement, d'avoir expliqué comment on va gérer la France dans les prochaines années...
C'est une crise à rebours.
Il y a des risques systémiques pour la France. Donc, moi, mon combat, c'est de faire en sorte qu'on prenne les bonnes décisions, quelles que soient les personnes qui sont aux manettes. Merci.
Très belle conclusion, Agnès Verdier-Molinier. Je rappelle, vous êtes essayiste, directrice de l'IFRAP et présidente du think tank ultralibéral. Merci et à tout de suite.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.